12h30. C'est l'heure du journal, présenté par Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Aux États-Unis, c'est une victoire politique à laquelle Donald Trump s'accroche. Sa promesse de campagne de grande réforme fiscale vient d'être adoptée au Sénat. Explication de Pierre-Yves Dugas au début de ce journal. Le président américain qui reste empêtré dans l'affaire des ingérences russes lors de sa campagne présidentielle. L'inculpation de son ancien conseiller Michael Flynn semble un peu plus le menacer. Réaction à suivre de Mark Warner, vice-président démocrate de la commission du renseignement au Sénat américain. En Nouvelle-Calédonie, à moins d'un an du référendum sur l'indépendance, Édouard Philippe s'est posé en rassembleur des indépendantistes et des loyalistes ce matin. Reportage de notre envoyé spécial Stéphane Robert dans un instant. Et puis à 12h40, votre rendez-vous avec la bulle économique et Marie Viennot. Aux États-Unis, Donald Trump s'est félicité tôt ce matin de l'adoption au Sénat de son projet de réforme des impôts. Hâte de signer un projet de loi définitif avant Noël, a-t-il déclaré sur Twitter. Un peu de répit, alors que les mauvaises nouvelles judiciaires s'accumulent pour le président américain. Nous allons y revenir, mais d'abord, cette grande réforme fiscale, c'était l'une de ses promesses lors de sa campagne. Et ce vote du Sénat n'était pas gagné pour le camp républicain, Pierre-Yves Dugas.
Les démocrates, minoritaires au Sénat, ont tous voté contre le projet de loi réduisant les impôts. Ils y voient une réforme profitant surtout aux riches et aux entreprises et un texte aggravant le déficit budgétaire. Les républicains, majoritaires, s'étaient déchirés l'été dernier sur la réforme de la santé, mais ils sont restés unis aujourd'hui, à une exception près. Grâce à de multiples marchandages de dernière minute, les républicains ont voté un texte très attendu par le monde des affaires. La taxe sur les bénéfices des entreprises va baisser, l'impôt sur le revenu des particuliers également. Le vote du Sénat, grande victoire législative pour Donald Trump, n'est qu'une étape. Il faudra maintenant que le texte soit harmonisé avant Noël avec celui déjà voté par la Chambre des représentants afin que Donald Trump signe enfin une loi d'importance et puisse clamer avoir tenu sa promesse de réforme fiscale.
Correspondance à Washington de Pierre-Yves Dugas. Est-ce par ailleurs un tournant dans l'enquête sur les ingérences russes pendant la dernière campagne présidentielle américaine? Hier, l'éphémère conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a plaidé coupable pour avoir menti au FBI en janvier dernier. Michael Flynn n'a pas dit la vérité de ses discussions téléphoniques avec l'ambassadeur russe en poste à Washington en 2016. Il devient ainsi le quatrième ancien conseiller de campagne du président Trump qui tombe dans les filets de cette affaire russe. Et ce n'est peut-être qu'un début, selon Mark Warner. Il est le vice-président démocrate de la commission du renseignement au Sénat.
Nous avons désormais deux personnes qui ont plaidé coupables. Nous avons un ancien directeur de campagne et son conseiller qui sont toujours mis en examen. Je me demande combien de personnes vont encore se retrouver devant la justice pour leur lien avec la Russie avant que l'on ait toutes les pièces du puzzle. Et il est toujours aussi étonnant de voir des hauts responsables du renseignement nommés par le président lui-même assurer que la Russie a massivement interféré dans les élections, de voir les réseaux sociaux constater l'intervention russe. Et franchement, quasiment tous mes collègues républicains reconnaissent qu'il y a eu une ingérence. Le seul individu qui semble toujours encore nier qu'il s'agit d'un problème majeur est Donald Trump. Et je me demande simplement pourquoi.
Des propos recueillis par notre correspondant Marco Voltaire. Au Yémen, l'ancien président Saleh, allié à des miliciens houthis, se dit prêt à tourner la page de ses relations avec l'Arabie Saoudite. « Nous pouvons traiter avec eux de manière positive et ce qui s'est passé au Yémen suffit », a-t-il déclaré en référence à la guerre civile qui mine cet État depuis 2015. L'internationalisation du conflit a d'ailleurs provoqué l'une des pires catastrophes humanitaires de ces dernières années. Les houthis sont toutefois divisés et cette démarche du président Saleh est dénoncée ce midi comme un coup de force par une partie des rebelles. En France, à moins d'un an du référendum historique sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, Édouard Philippe a fait ses premières déclarations à Nouméa ce matin. Le Premier ministre, qui va sillonner le territoire d'outre-mer jusqu'à mardi prochain, est allé à la rencontre des deux camps, indépendantistes et loyalistes, avec le souci de se poser en rassembleur, Stéphane Robert.
Édouard Philippe s'est appliqué tout au long de la journée à rassurer les responsables politiques calédoniens. L'État français restera à vos côtés, a dit le Premier ministre, quoi qu'il arrive lors du référendum l'année prochaine.
J'ai proposé aux partis que l'État organise une discussion complète avec tous les acteurs politiques de Nouvelle-Calédonie sur ce qui se passera après la consultation, pas simplement le jour d'après pour reprendre une expression consacrée, mais dans les années et les dizaines d'années qui suivront la consultation, quel que soit le résultat de cette consultation.
Et ceux qu'il faut rassurer, ce sont avant tout les indépendantistes, parce qu'ils pressentent qu'ils ne pourront pas l'emporter. Ils ont du mal à l'accepter. Paul Néaoutine est le président du Parti de Libération Kanak.
Moi, je dis simplement, je ne vois pas comment on dénoue un processus de décolonisation qui prévoit l'accession à la pleine souveraineté autrement que par dénouer par le haut. Donc, voilà.
Par le haut, c'est la pleine souveraineté.
Ben, pour moi, parce que c'est écrit en français dans la chose, hein, dans l'accord, non, c'est pas moi qui ai inventé le mot.
Pour un autre des leaders indépendantistes, Roch Wamitan de l'Union calédonienne, il faut dès lors trouver un moyen de faire perdurer le processus au-delà du et des référendums.
À un moment donné, ça va marcher, mais on ne sait pas quand et si c'est de notre vivant ou pas.
Entre indépendantistes et non-indépendantistes, la société calédonienne reste profondément divisée. L'espoir, c'est peut-être quand même qu'en 30 ans, les deux parties ont appris à dialoguer.
Stéphane Robert, notre envoyé spécial en Nouvelle-Calédonie, le territoire d'outre-mer où la situation politique vient d'ailleurs de se débloquer sur le plan de la politique intérieure. Après plusieurs mois de négociations, indépendantistes et non-indépendantistes viennent de réélire à la tête de leur exécutif Philippe Germain, issu de la droite modérée. L'archipel était cantonné à l'expédition des affaires courantes depuis le mois d'août dernier et cette crise politique. Le mouvement politique du 1er juillet, lancé par l'ex-socialiste Benoît Hamon, poursuit son développement depuis Le Mans, dans la Sarthe. Le mouvement devrait se choisir un nouveau nom aujourd'hui. Une coordination politique transitoire d'une trentaine de membres va également être présentée. Elle sera assistée d'un conseil des adhérents qui seront tirés au sort. Et puis une charte fondatrice doit également être adoptée. L'ex-président américain Barack Obama est à Paris ce midi. Il donnera conférence à 14h30 à la Maison de la Radio, invitation du réseau Napoléon, réseau discret qui rassemble plusieurs centaines de dirigeants de l'industrie et du monde de la communication. Le coût de cette opération n'a d'ailleurs pas été commenté, même si le Canard Enchaîné a estimé cette semaine le prix d'un tel événement à 400 000 dollars. Les précisions de Catherine Pétillon.
Communiquer et se faire un sacré coup de pub tout en parvenant à ne laisser filtrer que peu d'informations sur eux, c'est ce que parviennent à faire les Napoléons en invitant l'ancien président Obama à Paris. Les Napoléons se présentent comme un réseau destiné à rassembler les acteurs de l'industrie des communications, médias, télécoms, culture, avec l'idée, disent-ils, de créer le Davos de l'innovation. Derrière ce réseau professionnel, il faudrait plutôt dire d'influence, on trouve quelques figures venues du monde de la publicité. Les créateurs de Momentum, la société qui porte les Napoléons, sont deux anciens publicitaires, Olivier Mouliera qui a travaillé avec Jacques Séguéla chez Euro-RSCG, puis avec Stéphane Fuchs chez Havas, et Monder Abenader, lui aussi est un ancien d'Euro-RSCG. Des communicants donc, eux-mêmes conseillés par Image 7, compagnie d'Anne Méo, la puissante conseillère d'une bonne partie des grands patrons français. Elle fait aussi partie des membres fondateurs, aux côtés par exemple de Xavier Couture ou de l'ancien ministre Jean-Jacques Ayagon. Plusieurs milliers de membres, ils viennent ainsi alimenter leur réseau et faire des affaires, parfois au grand air, en l'occurrence les Napoléon organise deux rendez-vous par an à Val d'Isère et à Arles. C'est d'ailleurs là qu'ils avaient fait venir en juillet dernier un autre ancien président, François Hollande. Aujourd'hui, c'est le patron d'Orange, Stéphane Richard, qui introduira la conférence de Barack Obama.
Précision signée Catherine Pétillon. Toujours à Paris, plusieurs dizaines de militants d'attaque sont entrés de force ce matin dans le magasin Apple Store situé place de l'Opéra. Selon l'organisation altermondialiste, les militants occupent actuellement les locaux et ont déployé une banderole sur laquelle est inscrite « On arrêtera quand Apple payera », référence à l'amende de 13 milliards d'euros infligée par Bruxelles à la marque à la pomme l'an dernier, amende liée aux avantages fiscaux octroyés par l'Irlande à cette entreprise, entreprise qui a déposé un recours pour ne pas payer. Dans les Hauts-de-France, le Louvre-Lens fête ses 5 ans d'existence, bilan positif quant à la démocratisation culturelle sur le territoire. Au niveau de la fréquentation, 2 800 000 visiteurs en 5 ans. Le Louvre-Lens est devenu le troisième musée en région après le musée des Confluences à Lyon et le MUCEM à Marseille. Un musée pas du tout comme les autres, Isabelle Pasquier.
5 ans ! Le Louvre-Lens, il a 5 ans !
Le Louvre-Lens, c'est un musée autrement qui a largement pris racine. 450 000 visiteurs par an dans une ville de 30 000 habitants. Et une grande partie des visiteurs de la région sont venus plus de 6 fois au musée, qui est leur fierté. Parmi le fan club du Louvre-Lens, ses voisines, Jacqueline et Annick.
C'est mon Louvre, quelque part, c'est un peu comme s'il m'appartenait.
C'est ma deuxième maison. Il a mis en valeur la ville. Notre région, elle a trop de clichés. Et je me dis que grâce à lui, on pourrait sortir de ces clichés.
Les enfants et les ados, eux aussi, ont complètement adopté leur Louvre.
On est fiers d'avoir un Louvre dans notre région. Plutôt qu'aller à Paris, là, on peut y aller à Lens.
Le Louvre, c'est connu dans le monde entier. C'est une certaine fierté quand même. Ça montre que grâce au musée du Louvre, ben, on est aussi intéressé à la culture.
Paris gagné pour Marie Lavandier, la très passionnée et conviviale directrice du Louvre Lens.
L'enjeu, c'était ça. C'était le Louvre autrement. Dans un territoire qui est un territoire en grande difficulté, comme un signal d'espoir, mais aussi quelque part comme une démonstration que dans les musées, on peut peut-être essayer de travailler autrement et de capter un public que quand même, il faut le dire, depuis une quarantaine d'années, qu'on n'arrive pas vraiment à capter dans les musées.
Et pour fêter les 5 ans du Louvre Lens, fanfare, atelier, loto et même un bal.
Reportage signé Isabelle Pasquier. Il est 12h40 sur France Culture, journée internationale pour l'abolition de la traite des êtres humains aujourd'hui. L'esclavage, bien loin d'être un vestige du passé dans le monde et en France, Marie Viennot.
La bulle économique.
Bonjour.
Marie
C'est
Viennot.
Un sujet que l'on pensait du passé, mais qui est en fait de l'avenir. On appelle cela traite des êtres humains à des fins économiques, esclavage moderne, travail forcé. Pourquoi de l'avenir ? Parce que ceux et celles qui se retrouvent réduits à l'état d'esclaves ont un point commun, la vulnérabilité. Or, dans un monde qui se ferme, les migrants sans droit de séjour sont et seront de plus en plus vulnérables. Les statistiques sur ce sujet sont forcément compliquées à obtenir, mais elles existent. L'humain fait l'objet de 3 types de trafic. Le trafic de migrants, celui dont on parle le plus, mais le moins important en nombre. Le trafic à des fins sexuelles, c'est 80% des trafics d'êtres humains. Cela touche essentiellement les femmes. Le trafic à des fins économiques, 18% du total, celui qui nous intéresse dans cette chronique. Travailler sous la contrainte, la menace physique, être déshumanisé, privé de liberté de mouvement, c'est cela qu'on nomme l'esclavage moderne ou travail forcé. Cela concerne 25 millions d'individus dans le monde. Inde, Chine, Pakistan, Bangladesh, Ouzbékistan arrivent en tête, mais cela existe aussi en Europe, où cela concernerait 600 000 personnes. Les images de Libye ont rappelé que l'esclavage était encore de ce siècle. Mais les images manquent pour que chacun et chacune réalise qu'il a cours aussi sur notre continent. Sur une vidéo dont vous entendez maintenant la bande sonore, Anti-Slavery International met en dessin le visage de quelques-uns de ces esclaves d'aujourd'hui. Aucun pays n'est épargné. En France, le Comité contre l'esclavage moderne existe depuis 1994. Il a aidé 650 personnes à ce jour. Jusqu'à maintenant, on avait surtout de jeunes filles forcées à des tâches domestiques, raconte la présidente de ce comité. Mais c'est en train de changer. Il y a de plus en plus d'hommes. Ils travaillent sur les chantiers de construction, dans le commerce, l'agriculture, sont logés sur leur lieu de travail. Parfois, ils sont français. Et de citer le cas de 2 handicapés mentaux exploités pendant 30 ans par un patron qui n'aura au final écopé que de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Rien d'exceptionnel là. Selon la chancellerie, la peine de prison ferme moyenne prononcée pour traite des êtres humains est de 2,9 années.
Les êtres humains se distinguent des autres animaux par le téléencéphale hautement développé, par le pouce préhenseur et par le fait d'être libre.
Comme moi, vous serez peut-être étonné d'apprendre que c'est très récemment que l'esclavage moderne est traqué et condamné pour ce qu'il est en Europe. Jusqu'en 2013, il n'y avait même rien dans le code pénal français à ce sujet. On condamnait pour conditions de travail indignes ou travail dissimulé, mais pas pour travail forcé, traite ou réduction en servitude. La France a d'ailleurs été condamnée 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme, en 2005 et en 2012, au motif que l'esclavage et la servitude n'étaient pas alors réprimés par son code pénal. Mais ce temps est révolu, le trafic d'êtres humains a désormais dans l'Hexagone son infraction pénale, son plan de lutte et sa mission interministérielle, la MIPROF. Le hic, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de moyens et qu'elle est rattachée au secrétariat d'État pour le droit des femmes. Même si les femmes sont les premières victimes des trafics, le Comité contre l'esclavage moderne regrette que l'esclavage à des fins économiques ne soit traité que comme une sous-question des violences faites aux femmes. Difficile, quand le cadre est si large, de parler des risques spécifiques liés à l'explosion de la sous-traitance. Difficile de parler de la responsabilité des multinationales, notamment françaises, dans la perpétuation de ces pratiques d'un autre âge. Une charte pour sensibiliser les entreprises à la traite des êtres humains est en cours d'élaboration. À lire les milliers de chartes de bonne conduite et le peu de cas qui est fait de leur mise en œuvre, il en faudra plus pour inverser la tendance et faire que demain, il y ait moins d'esclaves modernes qu'aujourd'hui.
Merci Marie Viennot. La bulle économique est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo, trois départements maintenus en vigilance orange à la neige et au verglas, les Bouches-du-Rhône, le Var et la Haute-Corse. La Haute-Corse où il y a en plus des risques de pluie et d'inondations. Cet après-midi du 2 décembre sera nuageuse au bord de la Méditerranée, en Auvergne-Rhône-Alpes et sur les côtes normandes et bretonnes. Quelques percées ensoleillées partout ailleurs. Et les températures, moins 1 à Paris, 0 à Strasbourg et Lille, 2 à Bordeaux, 6 à Cherbourg et jusqu'à 7 degrés à Ajaccio. Journal préparé avec François-Charles Domergue. À la technique, c'était Inès Debrune.